Bonjour à tous, bienvenue dans ce 10e épisode du podcast de Rendez-vous Création. Au sommaire aujourd'hui, la deuxième partie de mon entretien avec Steph MC, créateur du podcast Pom 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 Pom. J'en profite au passage pour vous dire qu'un prochain épisode du podcast de Rendez-vous Création sera consacré à vos photos. Il s'agira d'un épisode de commentaires présenté sous la forme d'un diaporama, alors n'hésitez pas à m'envoyer votre sélection de 5 photos, vous trouverez tous les détails nécessaires sur le site de Rendez-vous Création. Sans plus attendre, la deuxième partie de mon entretien avec Steph MC. On va passer à la phase réalisation.
Ouais.
Au départ, j'imagine qu'il y a au moins un petit problème de synchronisation. Comment ça se passe ?
Il n'y en a pas trop, en fait. Au début, il y a un an, au niveau réalisation, c'était très simple. C'était, je prenais la piste de Skype que j'enregistrais, je ne sais plus très bien comment d'ailleurs, mais avec probablement un logiciel pour enregistrer.
Wiretap.
Ouais, un truc genre Wiretap. Les gens qui aujourd'hui se plaignent de la qualité du son, ils vont probablement changer leur avis quand ils écouteront la première émission, parce que celle-là était très pourrie et ça venait d'une part la faute à Skype, mais d'autre part surtout la faute à HPTroll qui à l'époque enregistrait de son PowerBook 12 pouces, donc on entend plus le ventilateur qu'autre chose. Et donc on s'est rendu compte qu'à un moment donné, bon ben voilà, il va falloir que je bosse un petit peu sur du multitracking. Moi, je voulais pas au départ, c'est ça qui est rigolo, c'est que quand je me souviens que quand j'ai démarré le podcast au tout début, j'ai dit clairement ça c'est rigolo, mais tant que ça me donne pas trop de travail de post-prod, je veux bien continuer à le faire. Puis finalement, le temps m'a donné tort puisque je me suis retrouvé à faire du multitracking dans GarageBand, et c'est là où justement j'en reviens sur le fait qu'on voudrait bien n'avoir que des gens qui ont une qualité technique parfaite, c'est-à-dire un micro casque ou un micro, et non pas un micro interne de PowerBook, parce qu'à ce moment-là, s'ils ont des micros pourris, bah, je dois jouer au yo-yo dans GarageBand, je dois monter, descendre de la track, et ça c'est un véritable enfer. Mais au niveau synchro, ça va. Il y a un an, on avait quand même des fois des décalages entre le moment où tu poses la question et le moment où je la réponds, il se passait quand même des fois carrément 2-3 secondes. Aujourd'hui il se passe genre une demi-seconde, grand maximum une seconde, et s'il y a trop d'écart, on rectifie. Mais comme certains auditeurs ont pu le noter sur le site web, on rectifie pas assez et des fois c'est un peu lourd à écouter les temps de décalage. Donc on va essayer à l'avenir de bosser plus la post-prod, c'est plus de travail mais on sera mieux récompensé, puisqu'en fait on s'est rendu compte que c'est pas qu'on avait pas évolué en auditeur, c'est plutôt qu'on en avait perdu pour différentes raisons qui pour la plupart sont justifiées.
Et alors justement, au niveau technique, sur le plan logiciel et matériel, quelle est votre configuration d'enregistrement aujourd'hui ?
Aujourd'hui, c'est que mon iMac, plus le Mac des autres, évidemment. Donc les autres enregistrent leurs tracks soit sur QuickTime Pro, soit dans GarageBand, soit Wiretap Pro, peu importe. Donc chacun de son côté, un peu comme on est en train de faire là. Et puis une fois qu'on a fini, ils m'uploadent leurs tracks. Puis moi, je prends ces tracks et je les monte dans GarageBand. C'est quand même vachement plus facile depuis que GarageBand 3 est arrivé pour le podcasting, puisque dans un seul et même logiciel, je peux faire ce qu'avant, j'avais besoin de probablement 3 ou 4 logiciels pour faire. Donc l'enregistrement, le montage, le chapitrage, donc c'est plus facile aujourd'hui quoi.
Et le logiciel de conférence audio ?
iChat ou Skype ou Gizmo, ça c'est au choix. À une époque on était grand fan de Gizmo, malheureusement Gizmo marche plus depuis que j'ai mon iMac, je sais pas si c'est un lien de cause à effet, mais toujours est-il que ça marche plus, c'est dommage parce que c'est assez chouette comme logiciel. iChat, il marche quand il veut au niveau de mon firewall, ça c'est bien connu et je suis pas le seul à avoir le problème. Donc on se retrouve plus souvent dans Skype, il y a rien de mal à ça, parce que Skype c'est quand même un logiciel formidable, et en plus au niveau qualité audio, c'est quand même, moi à mon sens, une meilleure qualité audio que iChat.
Est-ce qu'aujourd'hui, il reste des problèmes techniques dans cette phase d'enregistrement ?
Il y en a toujours, il y en aura toujours d'ailleurs, hein, parce que bon, moi je suis un mécontent par définition, parce que je pars du principe que si on est content, ben, on n'avance pas. C'est toujours un problème de workflow. Quand tu fais un podcast, tu as besoin de faire 10 ou 20 tâches, les unes après les autres, et finalement, il y en a qui ne s'emboîtent pas les unes dans les autres. Alors aujourd'hui, heureusement, on a réglé le problème des feeds et des choses ainsi. Au début, on devait faire les feeds à la main. Entre-temps, il y a des choses formidables comme Podcast Maker de Potion Factory qui sont arrivées, ou GarageBand 3 par exemple. Mais il y a toujours aujourd'hui des débilités du genre, tu enregistres dans QuickTime Pro, tu as un fichier Move, et ce fichier Move, tu peux pas le drag and dropper dans GarageBand. Il faut absolument le convertir d'abord soit en AIFF, qui est le format natif de GarageBand, soit en M4A. Mais le point Move, qui est quand même le fichier d'Apple, tu peux pas le draguer dans GarageBand 3, qui est aussi d'Apple. Alors ça c'est un problème, mais à la rigueur c'est un problème mineur, surtout qu'avec mon iMac Core Duo 2 GHz, je dois dire que convertir une heure de move en AIFF, ça doit prendre en tout et pour tout 2 minutes. C'est assez effrayant la rapidité de la bécane dans ce genre de tâches. Par contre, ce qui moi me chagrine, c'est que dans GarageBand aujourd'hui, tu peux pas normaliser les tracks. Et normaliser quand tu fais un podcast entre guillemets communautaire, quand t'as plus d'une track, c'est super important. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, les gens se plaignent, à raison d'ailleurs, des niveaux sonores différents entre les gens. Parce que moi, j'enregistre avec un tel niveau sonore, puis il y en a un autre qui enregistre avec un tel. Et puis en plus, il y en a toujours bien un qui a un micro pourri, chose à laquelle on va remédier, probablement. Et donc finalement, l'un dans l'autre, tu te retrouves toujours à avoir des différences de niveau. Et si tu veux faire ça aujourd'hui, tu dois passer par un autre logiciel, du genre Audacity.
Et au niveau coordination entre les différents intervenants, est-ce que tu as des problèmes de coordination justement ?
Bah, c'est comme dans la vraie vie, quoi. Le mec qui est un peu plus timide, bah, il va forcément moins parler, quoi. Et c'est un peu dommage parce qu'il a peut-être des choses tout aussi intéressantes à dire, mais à ce niveau-là, c'est un peu la loi de la jungle et je pense que ça le restera.
Et parfois, t'as pas des problèmes de conflit sur un sujet, des personnes qui sont pas du tout d'accord ?
Des avis opposés, on en a, ouais, tout le temps. Et c'est ça qui fait l'intérêt de la chose. Et c'est ça que les gens aiment, d'ailleurs. Et il y en a qui prennent parti pour l'un ou pour l'autre. Le principe de Pomcat, c'est quand même discussion autour du feu. Donc il faut pas que ça se formate comme une émission de télé et que tout le monde soit d'accord avec tout le monde. C'est pas l'école des fans non plus, hein. Donc,
Mais du coup, au montage, t'as pas parfois envie de couper certaines parties ?
Je coupe pratiquement rien. En tout cas, je coupe pas d'opinion ou quoi que ce soit. Ou les seules fois où je coupe, honnêtement, c'est probablement quand il y a des blancs ou s'il y a le téléphone qui sonne, des trucs qui dérangent entre guillemets au niveau de la post-prod. Mais je coupe pas un avis. Je coupe clairement pas un avis. Je censure personne.
Il y a d'une part les éléments sonores que tu rajoutes. D'autre part, des éléments graphiques qui viennent en illustration, tous ces éléments, tu les récupères comment ? Tu les ajoutes en fonction de quoi ?
Alors les éléments sonores, il y a le pom-pom-pom-pom de Beethoven au tout début, puis je dis le numéro d'émission, puis il y a le jingle... le générique de début où on entend Bill Gates et Steve Jobs, et puis après on démarre, et puis à la fin il y a le boom boom tchak et c'est tout. D'ailleurs il y a des choses que j'ai fait moi et il y a des choses que d'autres ont fait. Le générique de Pomme 4, ça a été fait par un ami de Vince. Après le côté Bill Gates parle et Steve Jobs parle, ça c'est moi qui l'ai fait et je suis assez content de mon travail parce que c'est assez rigolo. Ça c'est assez facile à rajouter. Les chapitres, je les fais vraiment au montage à la fin. J'ai déjà avant préparé normalement plus ou moins les URL et des choses ainsi, et si pas, ben je les cherche au moment où il faut. Et pour ce qui est des images, j'ai une espèce de petite banque d'images typiques Apple qui reviennent, des trucs qui reviennent genre l'iPod, l'iMac, des choses ainsi, mais 9 fois sur 10, enfin pas 9 fois sur 10, mais la moitié du temps, je vais carrément avec Safari, très souvent sur Google Images, et je drag and drop. Heureusement, Safari se drag and drop dans GarageBand, ça c'est assez bien foutu au niveau workflow.
Est-ce que tu te fixes une limite en termes de temps ?
Je m'en fixais pas, mais on va s'en fixer. Plus c'est long, plus c'est bon, ça c'est clair. Par contre, je me suis fait critiquer maintes et maintes fois sur le fait que c'était trop long. Bon, maintenant, on va essayer de structurer l'émission en séquence. Alors pour l'instant, ça n'est qu'un projet, mais il faut que ça se concrétise, parce que les projets, si ça se concrétise pas, ça sert à rien. Et à partir de là, on va essayer aussi de la faire plus courte, mais qu'elle revienne plus souvent, parce que ça sert à rien de faire une émission d'une heure et demie qui revienne toutes les semaines et demie. Autant faire une émission d'une heure qui revienne toutes les semaines. Par contre, effectivement, le côté communautaire fait que je peux pas forcément me dire voilà, les gars, on enregistre tous les lundis soirs, quoi.
On va passer à la dernière partie, la partie publication.
Ouais.
Récemment, t'es passé à WordPress. T'en es content de WordPress ? Est-ce que c'est efficace pour publier tes podcasts ?
Ouais, enfin, WordPress, pas tout seul. Mon site WordPress, entre guillemets, ne serait rien sans, pour la partie podcasting, en tout cas, un plugin qui s'appelle PodPress. Il y a un an, quand on a commencé avec le podcasting, j'en discutais il n'y a pas longtemps avec Bertrand Lenôtre, on devait tripatouiller dans les fichiers XML, c'était l'horreur. Il n'y avait rien de rien. PodPress est assez génial dans le sens où il prend tout simplement ton post, ou ton billet pour les francophones parmi nous, dans WordPress, et tu lui dis, voilà, à ce billet est associé tel fichier, et d'ailleurs tu peux lui donner 2 ou 3 ou 15 si tu veux, formats différents du fichier. Et ensuite, en passant les bons paramètres dans l'URL, tu récupères le feed pour un tel fichier. Aujourd'hui, sur pomcast.com, on a 4 podcasts. Et le seul qui fonctionne encore avec un fichier XML, c'est Pomcast français. Tous les autres, c'est-à-dire les deux francophones et germanophones plus une pomme, fonctionnent directement avec WordPress. J'en suis super content parce que on a quelques plugins, notamment, j'en ai déjà parlé, Podpress, mais aussi Polyglot qui permet le côté multilingue, qui finalement font tourner la machine sensiblement bien, quoi.
Alors, un problème du podcasting au niveau de la publication, c'est l'hébergement et la bande passante. Ça prend beaucoup de place, ça consomme beaucoup de bande passante. Tu résous ça comment ?
Pour l'instant, je résous ça avec Podhost, qui est l'hébergeur de podcasts allemand. Et à terme, on va probablement résoudre ça avec une société d'un ami qui va se lancer sur une offre d'hébergement. On va faire un partenariat une fois de plus. Podhost, c'est assez génial parce que quand je les ai découverts, c'est qu'il n'y a pas de limite de bande passante, de trafic.
Aujourd'hui, les commentaires sur le site pomcast.com sont modérés a priori. Au départ, c'était pas le cas. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis ?
Le spam, tout simplement. C'est la raison, la seule et unique raison. Aujourd'hui, tu dois te faire approuver une seule et unique fois, donc c'est quand même une demi-modération.
Et justement, une fois que tu as publié un épisode, le contact avec les auditeurs se passe bien via les commentaires, les emails, etc.
D'un podcast à l'autre, plus ou moins bien, plus ou moins nombreux, parce que bien, ça se passe toujours bien. Je me fais rarement flamber sur mon propre site. Quand je me fais flamber, c'est sur des autres sites, quoi. Pour la simple raison que les mecs qui viennent, ils viennent parce qu'ils aiment bien. Mais au niveau nombre, d'un podcast à l'autre, c'est plus ou moins nombreux. La 41, c'est de la folie. La 41, aujourd'hui, on a plus de 40 commentaires. Et quand je compare avec les gros sites, donc MacGen, Mac4, MacBid, plus de 40 commentaires, finalement, dans l'absolu, c'est vraiment pas mal.
Et alors, justement, les statistiques, tu les suis comment ? T'as des outils en particulier ?
Alors, il y a deux têtes de statistiques. Il y a les statistiques du podcast en lui-même. Et là, Podhost me donne quand même des graphiques assez intéressants. Et sensiblement, pour ce qui est du podcast, c'est de savoir combien de fois il a été downloadé, quoi, c'est tout. Par contre, le site en lui-même, là, il y a tout simplement du Webalizer, d'une part. Et d'autre part, j'ai toujours des petits outils en parallèle qui sont des trucs comme Netstat ou par exemple Xity que j'ai réinstallé là après quelques mois où je l'avais pas utilisé. Et ça me permet de savoir d'où les gens m'écoutent. Donc, c'est principalement, majoritairement français, majoritairement la France. Ensuite, au niveau des pourcentages, c'est un truc genre 8% l'Allemagne et puis juste derrière la Belgique. Mais c'est clair, c'est 70 ou 80% de Français de France, quoi.
Tu utilises aussi Feedburner, non ?
J'utilise aussi Feedburner, mais Feedburner ne te donne qu'une information. Et c'est rigolo parce qu'en allant sur pomcast.com, je me suis rendu compte que sur Feedburner, j'ai exactement 1000. Mais ce 1000 correspond à 1000 dans les derniers 24 heures, quoi. C'est tout ce que Feedburner te dit. Alors, les gens pensent à tort que Feedburner est le nombre de downloads. Mais en gros, on peut toujours multiplier Feedburner par à peu près 2 ou 3 pour voir comment un podcast fonctionne s'il est journalier. Et aujourd'hui, si je regarde les pommes 4 en arrière, la 39 par exemple, 1800, la 36 a été downloadée 2400 fois, mais la 36 elle date du 5 avril, donc ça continue d'être downloadé, quoi. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans les chiffres qui montent et qui descendent, quoi. Je pense qu'on a perdu pas mal d'auditeurs de par le fait qu'on a été clairement, et c'est probablement moi le principal fautif, moins organisé à certains moments, et c'est parti trop en sucette des fois, et c'est pour ça qu'on va essayer un petit peu de rectifier le tir, et finalement de faire ce qui finalement est le plus dur, c'est-à-dire le plus dur, c'est pas trop de gagner des auditeurs, mais plutôt de les garder, quoi.
Et on a dit que t'étais à plein temps sur le sujet.
Ouais.
Comment est-ce que tu fais quelque part pour que ça devienne rentable ?
Je cours après les sponsors. J'essaye de faire des beaux t-shirts pour les vendre, mais le côté t-shirt, ça rapporte vraiment pas grand chose. La seule et unique façon rentable de gagner plus ou moins sa vie avec ça, c'est avec les sponsors, aussi bien au niveau du podcast que au niveau du site. Et ça passe par soit je vais les chercher moi-même comme un grand, comme par exemple Elgato, soit les bannières sur le site, c'est du trade doubler, c'est un secret pour personne, et donc ça c'est facile parce que là les outils pour les sites web, les outils sont en place depuis des années, des années et des années.
Voilà, c'est donc la fin de mon entretien avec StuffMC. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, par exemple si vous souhaitez avoir la définition d'un terme utilisé par StuffMC. Au sommaire du prochain épisode du podcast de Rendez-vous Création, un entretien avec Benoît Marchal, créateur du podcast Déclencheur.com. Le suivant sera consacré à vos photos, donc n'oubliez pas de m'envoyer votre sélection de 5 photos. À bientôt !